VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel, dans 10 minutes, Sahel plus avec Claire Morin-Gibourg, mais tout d'abord le journal. Présidentielle en Gambie, manifestation de joie à Banjul, la capitale et dans plusieurs autres villes du pays après la proclamation des résultats du scrutin à un tour de jeudi, confirmant la victoire du candidat d'opposition Adama Barrow face au président sortant Yahya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans. Selon la Commission électorale nationale, Adama Barrow a obtenu 45,5% des voix contre 36,6% pour le président sortant et 17,8% à Mama Kandé, ex-député du parti au pouvoir et candidat d'une nouvelle formation politique. La participation électorale avoisine les 65%. Porté au pouvoir par un coup d'État en 1994, Yahya Jammeh, élu pour la première fois en 1996, puis réélu depuis tous les 5 ans, briguait un 5e mandat à la tête du pays. Nani Talani brosse le profil du président sortant de Gambie.
Yahya Jammeh, âgé de 51 ans, est issu d'une famille paysanne de l'ethnie Diola. Ce capitaine de l'armée est arrivé au pouvoir en 1994 après un coup d'État contre le président Daouda Diawara. 2 ans après, il prend sa retraite de l'armée avec le grade de colonel pour créer son parti. Il remporte à 31 ans la présidentielle et sera réélu en 2001, puis en 2006, avant qu'un amendement constitutionnel supprime toute limite au mandat présidentiel en 2002. Il a un physique de lutteur, arbore toujours le grand boubou blanc avec chécha, écharpe, des tons de collier et médailles autour du cou, une canne taillée sur mesure et apparaît souvent avec plusieurs chapelets à la main. Yahya Jammeh s'est aussi illustré par ses déclarations contre l'Occident, l'homosexualité et a retiré son pays de la CPI, même si la procureure Fatou Bensouda est gambienne et son ancienne ministre de la Justice. Aimant à se faire appeler son excellence, Cheikh professeur Eladj Dr Djadja Hadj Jammeh, il affirme guérir plusieurs maladies dont l'asthme, l'épilepsie, la stérilité et le sida. Marié, il est père de 2 enfants. Ses partisans le créditent de plusieurs projets et de la relative stabilité dont jouit le pays. Les ONG l'accusent de violation des droits de l'homme, des assassinats, disparitions forcées et tortures contre des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des opposants.
Le vainqueur de la présidentielle de jeudi, Adama Barrow, a donc battu un dirigeant gouvernant son pays d'une main de fer depuis 22 ans. Qui est le nouveau leader de la Gambie? Son profil avec Salwa Jafari.
The support is there, power belongs to the people. You can't suppress that, you cannot stop that. It's the people. And the people are with us.
Adama Barrow a eu raison, il est pourtant l'homme qu'on n'attendait pas. Né en 1965, originaire de Bassantou, il a d'abord fréquenté l'école primaire locale de Kaobakunda, puis l'école secondaire Crab Island à Banjul, avant de recevoir une bourse pour l'école secondaire musulmane. Un diplôme en poche, il a travaillé pour Argy Moussa & Sons en tant que directeur des ventes. Barrow a ensuite déménagé à Londres au début des années 2000, où il a étudié pour un diplôme en immobilier, tout en travaillant comme gardien de sécurité pour financer ses études. Il s'est par la suite lancé dans les affaires avec son agence immobilière, la Majoun Real Estate, pour faire fortune, militant de l'UDP, le principal parti d'opposition depuis 1996. Il a servi comme trésorier avant de démissionner pour annoncer sa candidature. La désignation de l'homme d'affaires comme candidat à la présidentielle relève d'un concours de circonstances où Saïnou Darbo, le leader de l'UDP, purge une peine de 3 ans de prison pour avoir participé à une manifestation non autorisée. Barrow aura ainsi réussi l'exploit de faire tomber l'homme fort de Banjul, Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans.
Comme on peut l'imaginer, la victoire inattendue du candidat de l'opposition a donné lieu à des manifestations de joie dans les rues. Écoutez ce témoignage d'Alpha Diallo, joint à Banjul par Idriss Fall.
Les gens sont en train de célébrer depuis, même pendant la nuit, quand les résultats provisoires indiquaient qu'Adama Barrow avait une avance confortable. Ils ont commencé à fêter, à crier dans les rues en grand nombre. Je viens juste de parler à un reporter local et il a dit qu'aujourd'hui à Banjul, la capitale, à Serekunda, qui est une grande ville, Birkama et Pakao, c'est très explosif. L'atmosphère est très électrique. Les gens dansent et chantent partout parce qu'ils se sentent libérés du joug de M. Djamé qui a dirigé le pays d'une main de fer.
Alpha Diallo à Banjul en Gambie.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, le procès de l'ex-chef de la junte malienne, Amadou Aliassane Ogo, et ses co-accusés à Sikasso dans le sud, de nouveau ajourné ce vendredi, peu après l'ouverture de l'audience. Le ministère public, constatant l'absence des avocats de la défense, a réclamé la suspension de la séance. Le procès est censé reprendre le lundi 5 décembre à partir de 9h, heure locale. Les détails avec notre envoyé sur place, Kassim Traoré.
En ce deuxième jour du procès dans l'affaire Amadou Aliassane Ogo et autres, des dizaines de personnes étaient dressées en longue ligne pour s'accréditer et avoir accès à la salle d'audience Lamissa Bangali. Vers 9h, les accusés Amadou Aliassane Ogo, Ibrahim Dayrou Dembélé, Amadou Konaré, Yamsa Camara et Simeon Keita accèdent à la salle d'audience. Puis ce fut le tour de Soïba Diarra, Christophe Dembélé, Omar Sanafo Dikif Kif et tous les autres. Si les accusés sont rentrés dans la salle sans difficulté, les policiers qui procèdent aux fouilles corporelles à l'entrée de la porte de l'audience ont fait savoir aux avocats que le téléphone portable est interdit à toute personne, y compris les avocats, sans exception. Les avocats ont contesté cette décision des policiers. Ils ont demandé par la même occasion qu'une salle soit aménagée pour eux. C'est pourquoi les avocats de la défense sont restés à la porte. Pendant ce temps, le président du tribunal a commencé l'appel des accusés. Le ministère public constate l'absence des avocats de la défense et réclame la suspension du procès. C'est pour cela que le président de la session, Mamadou Berthe, a suspendu l'audience jusqu'au lundi 5 décembre 2016, en attendant que les choses rentrent dans l'ordre. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
RDC, offensive diplomatique du président congolais Joseph Kabila à Washington, son émissaire spécial Barnabé Kikaya Bin Karoubi veut rassurer les Américains sur les intentions du président Kabila après le 19 décembre, fait officiel de son mandat. On l'écoute au micro de Nicolas Pinault.
Les Congolais ont trouvé une solution pour l'après 19 décembre. Le président de la République, qui a déjà accompli ses deux mandats électifs, peut rester en fonction. Donc la fonction de président continue.
Que fera Joseph Kabila le 20 décembre à minuit 01 minute ?
Le soleil va se lever à l'est, il va se coucher à l'ouest. Il sera à la présidence de la République parce que s'il quittait la présidence de la République, parce que la constitution de la République démocratique du Congo lui demande de rester président de la République démocratique du Congo aussi longtemps qu'il n'y a pas un autre président élu. Alors notre message à la communauté internationale, à nos partenaires américains et autres, c'est de nous accompagner vers ces élections-là que nous, Congolais, nous avons décidé auront lieu en avril 2018. Venez nous aider et vous verrez que le président respectera. Bien sûr, à ce moment-là, il va respecter la Constitution. S'il y a un nouveau président élu, il quittera le pouvoir.
Barnabé Kikaya Bin Karoubi, émissaire du président Joseph Kabila à Washington. Politique en France maintenant, après la sortie du président François Hollande de la course à l'Élysée, qui sera le porte-parole, le porte-étendard de la gauche française à la présidentielle de 2017. L'analyse de Thomas Guénolé, politologue français.
En fait, trois personnes, dont en fait il n'y a que deux places et il y a un fauteuil pour deux dans un cas. C'est-à-dire que ce sera Manuel Valls ou Arnaud Montebourg pour la primaire du PS. Manuel Valls étant dans la continuité de l'héritage de François Hollande, mais avec une ligne qui lui est particulière, qui est beaucoup plus autoritaire sur les questions de sécurité et sur la relation avec la minorité musulmane. Il baptise ça fermeté sur la laïcité, mais en réalité c'est une hostilité envers le fait religieux musulman lui-même. Et il est sur une ligne de politique économique qui est identique à celle de François Hollande. Arnaud Montebourg, lui, est sur une ligne qui est relativement inconnue. On ne sait pas trop ce qu'il pense sur les questions de type minorité musulmane, sécurité, etc. Il a une position connue sur l'antiterrorisme qui est le rétablissement du service militaire. Par ailleurs, sur l'économie, c'est un keynésien et c'est un protectionniste. Donc il est vraiment dans le contre-pied à gauche de la politique préconisée par Manuel Valls. À côté de ça, vous avez quelqu'un qui, lui, est socialiste au sens fort idéologique du terme. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, est déjà parti dans une campagne qui a l'air de bien démarrer. La plupart des sondages le pointent à 15%, et donc il est vraisemblable qu'il ait une dynamique assez intéressante pour lui.
Thomas Guénolé, politologue français. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Bonne soirée et bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.